France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info. Et oui, ça débat déjà dans votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors bon, je crois qu'il n'y a pas grand-chose hein, quand même aujourd'hui dans l'actu. Hein. Quand on ouvre un journal, on peut voir des titres comme « La marine du Sri Lanka repêche un éléphant en pleine mer ». Bon, voilà. Ou « Aux États-Unis, un campeur se réveille la tête dans la gueule d'un ours ». Ou « Kev Adams, les vacances, c'est cool ». Voilà, c'est pas facile de trouver de l'info aujourd'hui. Un Picsou Magazine, c'est plus que c'était, donc je vais peut-être arrêter mon abonnement. En tout cas, eux, ils sont aux platines du bal des pompiers de l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Yannick Halimi, bonsoir, du bonsoir. Parisien aujourd'hui en France. Également l'écrivain André Berkoff, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Pascal Richet de l'Obs, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir.
Et Yann Lamingue, bonsoir, rédacteur en chef de Foot Glacial. Et ce soir, nous parlerons de Paris Match, le choc des photos au sens propre du terme, des ordonnances de la loi travail, c'est fait. Dans notre série Les Grands Disparus de l'été, aujourd'hui, le Front National. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors, il y a eu Donald Trump à Bruxelles pour un sommet de l'OTAN, Donald Trump en Sicile pour le G7, Donald Trump à Hambourg pour le G1, Donald Trump à Paris pour le 14 juillet. C'est fou comme cet homme aime l'Europe. Hein. C'est limite suspect. On comprend mieux ses déclarations en janvier dernier où il prédisait une désintégration de l'Union européenne face à la crise des réfugiés. C'était un leurre. Hein, en fait, il aime trop l'Europe pour le dire, bandive. Hein. Le président américain et son épouse sont donc à Paris pour une visite rapide, un passage aux Invalides, un dîner à la Tour Eiffel, un défilé militaire avec présence de troupes américaines et hop, retour à Washington. Une visite qui fait un peu polémique en raison de la personnalité du président américain, mais qui permet à Emmanuel Macron d'avancer ses pions diplomatiques. D'ailleurs, Donald Trump est ravi, ravi, mais tellement ravi d'être ici en France. On l'écoute, Donald Trump.
C'est une très belle célébration nationale. Nous avons hâte d'y assister. Ça va être spectaculaire demain, le 14 juillet. Nous sommes honorés d'être ici, dans votre superbe pays. Car c'est certainement un superbe pays. Avec une histoire et des gens magnifiques. Et merci de cette visite des bâtiments les plus beaux du monde. C'était une très très belle chose à voir. Merci.
Voilà, Donald Trump, lors de la conférence de presse aux côtés d'Emmanuel Macron. Alors juste au départ, André Berkoff, ça y est, il aime bien la France finalement, Donald Trump.
Mais il a toujours aimé la France.
Ah, pas toujours, hein.
Toujours, ah toujours.
Bon, on l'a mal interprété.
Quand il a dit que la France était en train de se perdre parce qu'elle ne se défendait plus, c'est parce qu'il aimait la France qu'il a dit ça.
Ah d'accord.
Ben oui.
Donc on l'a mal interprété.
Non, mais c'est pas... Mais enfin, attendez, quand il dit, il l'a dit à moi, mais il l'a dit à l'argent, à la télévision ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, moi je connais Paris, j'y suis allé 10 fois, je comprends pas qu'on accepte qu'au Bataclan, on fasse open bar, et que 3 terroristes viennent massacrer 130 personnes sans qu'on les défende. Et Nice, et Molenbeek, etc.
Il avait dit, si moi j'aurais eu une arme, j'aurais tiré.
Oui, absolument. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Quoi, ça
alors,
peut se comprendre.
Alors, justement,
donc il n'est pas en contradiction.
Pas en contradiction. Alors, Pascal Richet, depuis l'annonce de sa venue, on cesse de discuter en fait, sur le bien fondé justement de l'arrivée de Donald Trump. Pour vous, il y a Emmanuel Macron qui, ce matin, il était avec Angela Merkel, il a dit, je comprends pourquoi il y a ce débat en France. Est-ce que vous comprenez, vous, pourquoi il y a ce débat
autour de la présence je comprends pourquoi il y a le débat, effectivement. Trump est... est détesté en France, il représente tout ce que la France déteste, etc. Donc c'est normal qu'il y ait un débat. Maintenant, moi je pense qu'il a tout à fait raison de le recevoir, parce que Donald Trump c'est d'abord le président des États-Unis, avant d'être Donald Trump, et puis Macron il essaye d'exister sur la scène diplomatique, et quoi de plus simple pour exister que de recevoir le président des États-Unis. Maintenant, il se replace même au niveau européen, même par rapport aux Anglais, par rapport aux Allemands, il se replace comme l'homme qui est au centre du jeu diplomatique mondial. C'est très bien joué, moi, je trouve.
Yannick Halimi, cette invitation avait été lancée depuis longtemps, hein, d'ailleurs, même avant l'élection du président américain l'année dernière. C'est important, finalement, pour Emmanuel Macron, aujourd'hui, en dehors du centenaire, de l'engagement des Américains aux côtés des forces françaises en 1917, de recevoir aujourd'hui Donald Trump. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il se voit très régulièrement, maintenant, finalement.
Oui, mais pas en France. Hein. Ouais, c'était à Bruxelles, c'était en Italie.
En Sicile, exactement.
De mémoire. C'est d'abord... Enfin, c'est aussi important d'abord hein, pour Donald Trump, qui, comme vous le savez, est emberlificoté dans ses affaires d'espionnage, d'intervention de la Russie dans la campagne électorale. On parle de procédure d'impeachment de façon très récurrente. de façon très récurrente, même si elle n'aboutira pas, je vous rassure, André Bercoff. Enfin, en tout cas, ça prendra du temps.
C'est de la rigolade.
Donc, c'est aussi très important pour Donald Trump de jouer le jeu et d'être reçu avec tous les honneurs de la République française. Alors, moi, je vous avais dit, on en avait déjà parlé, ça me gênait un petit peu hein, que Macron reçoive Trump. Il s'était fait élire quand même face à Marine Le Pen, qui est, entre guillemets, l'équivalent, hein, toute chose égale par ailleurs. Ah, je sens qu'il soupire. Ah oui, bon, écoutez, d'une certaine façon,
c'est important.
Oui, c'est important. Comme le disait Pascal, je reviens, il reçoit les États-Unis, mais je trouve, il reçoit les États-Unis et pas Donald Trump. Et pour répondre très rapidement à votre question, je trouve qu'Emmanuel, alors, c'est pas une critique, Emmanuel Macron voit grand, il voit très grand, parce que il se pose comme, effectivement, la tête de pont européenne d'une relation privilégiée avec les États-Unis, d'un couple aussi. Non, je m'arrête ou quoi?
Juste
un mot. Moi, je trouve important de le recevoir à l'occasion de l'entrée, enfin, de l'anniversaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Parce que c'est un moment décisif dans l'histoire des États-Unis. C'est le moment où ils embrassent le monde, où ils vont vers le monde, où ils s'ouvrent, où ils vont vers le multilatéralisme. C'était Woodrow Wilson. Et donc, c'est une façon de dire à Trump, voilà, ton histoire américain, c'est aussi ça, c'est aussi d'aller vers le monde.
Yann Lemaingre, vous, cette présence, pour vous?
Je t'entends une métaphore. Je dirais que si le monde est un village, comme on dit aujourd'hui, on a notre idiot du village qui est Donald Trump, sauf que l'idiot du village fait 2 mètres de haut et qu'il a des coltes à la ceinture. Donc, on a tout intérêt à être gentil avec lui.
C'est ça. Finalement, André Bercoff, c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron comme Donald Trump ont presque besoin de l'un de l'autre parce que, par exemple, Angela Merkel n'aime pas Donald Trump, elle lui a fait savoir. Alors qu'Emmanuel Macron, voilà, exactement. Alors qu'Emmanuel Macron semble finalement.
Non, mais Emmanuel Macron, il faut le dire quand même. Il a, non, mais c'est vrai, sur le fond, il a quand même une formidable séquence de communication. Emmanuel Macron, encore plus que Donald Trump, il faut le dire, parce que l'autre est pas mal aussi dans le genre. Mais lui, il, depuis qu'il est là, il a amené les symboles, la communication à un degré vraiment hautement artistique. C'est le David Hockney de la communication à la puissance 10. C'est-à-dire, il reçoit tout le monde, c'est lui, c'est vraiment, mais c'est le taulier. Il s'est dit, attendez, maintenant la France, il faut qu'elle soit au milieu du jeu, donc je vais faire le taulier. Je reçois Trump, Poutine à Versailles, je reçois Trump avec les honneurs à Paris, je reçois Merkel un peu avant, je suis là, et ça c'est très bien. Maintenant, après, ce qu'il faudra voir, c'est les actes. C'est ce qui va.
Alors, on va en parler.
Sur quoi ça va déboucher.
On va en parler justement et de ce dîner hein, qui sera à la Tour Eiffel où on va beaucoup parler, notamment entre Donald Trump et Emmanuel Macron. L'info à 20h10, Pierrick Bonneau.
Nous aurons un dîner d'amis avec Donald Trump. Emmanuel Macron a insisté sur la relation forte avec son homologue américain avant de l'emmener dans un restaurant du deuxième étage de la Tour Eiffel. Ce soir, dîner à 4 avec les deux premières dames. Lors d'une conférence de presse commune tout à l'heure, le président américain a eu cette phrase sibylline. Quelque chose pourrait se passer sur l'accord de Paris, 6 semaines après avoir annoncé que les États-Unis comptaient sortir du traité. Le président français sera à Nice demain pour les commémoration de l'attentat du 14 juillet. Emmanuel Macron s'entretiendra avec le maire de la ville, Christian Estrosi, avant d'assister à une cérémonie d'hommage. Le chef de l'État rencontrera personnellement et à huis clos les familles de victimes. Les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande devraient également faire le déplacement. Sachez qu'avant de s'envoler pour Nice, Emmanuel Macron s'adressera aux Français demain à l'issue du défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Une Française et ses 4 enfants retenus depuis samedi par l'armée irakienne, tous les 5 arrêtés à Mossoul, selon l'avocat de la mère de la famille qui s'est confiée à France Info. Les enfants sont âgés de 5 mois à 6 ans. D'après le récit qu'elle fait, cette Française vivait depuis 3 semaines dans un immeuble de la deuxième ville d'Irak et ne pouvait pas fuir avant en raison des combats. Le père de famille, vraisemblablement membre de Daesh, serait décédé. L'Olympique de Marseille officialise ce soir le recrutement pour 4 ans de l'international français Adil Rami en défense centrale. Le joueur avait déjà annoncé lui-même mardi qu'un accord avait été trouvé entre son club espagnol, le FC Séville et l'OM.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, première visite en France officielle de Donald Trump. Il sera demain sur les Champs-Élysées pour passer les troupes en revue aux côtés d'Emmanuel Macron, puisqu'il y a un bataillon de l'armée américaine qui participe à ces festivités. Jeanne Calimi, quand Emmanuel Macron a dit tout à l'heure, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer sur l'accord de Paris. Est-ce qu'il a encore finalement le fantasme peut-être de faire bouger Donald Trump sur sa décision de retrait de l'accord de Paris?
Il a peut-être ce fantasme. Et puis ce n'est pas impossible. Malgré tout, alors ça fait partie effectivement d'un de ses échecs relatifs. Hein, pour le moment, il n'a pas réussi à le faire changer d'avis. C'est ce qui marque quand même les limites de ses ambitions, comme le disait André Barkov tout à l'heure. C'est bien d'avoir des ambitions, mais il faut aussi avoir les moyens de les réaliser. Mais quand même, Trump en matière de climat, ce n'est pas toute l'Amérique. Évidemment, il y a la force du président des États-Unis dans le cadre d'une convention, enfin d'un accord international. Mais on sait qu'aux États-Unis, il y a énormément d'acteurs, que ce soit les villes, que ce soit même
des États,
mais aussi des grands groupes industriels qui s'y sont mis. Il ne faut pas croire que l'Amérique est totalement à la traîne en matière écologique. Donc il y a des forces, y compris ce qu'on appelle ici les lobbies industriels, qui sont prêts à faire des efforts, qui sont déjà engagés à le faire. Maintenant, est-ce qu'Emmanuel Macron a des contacts avec eux pour pouvoir dire ça? Enfin, en tout cas, c'est un pari. Je ne sais pas s'il y a il y aura des actes après les paroles.
André Berkoff.
Oui, non, je crois que deux choses là-dessus. C'est clair que Trump est un fiefé climato-sceptique de ce point de vue. Là, je suis. Oui. Enfin, moi et beaucoup d'autres, on est en désaccord complet avec ça.
C'était annoncé pendant sa campagne, d'ailleurs.
Mais il l'a dit. Non, je veux dire, on ne peut pas dire qu'il a trompé sur la marchandise. Ce qui est d'ailleurs, chez nous, est une faute de goût. Comment quelqu'un qui fait ce qu'il a dit pendant sa campagne, c'est inadmissible quand même. Chez nous, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent et après on passe à autre chose. Simplement, juste sur la COP21, quand même un moment. Je vais vous rappeler les 190, joie, pleurs de joie, magnifique et tout ça. Sauf que cet accord, si on le lit, on l'a lu, pas une sanction. C'est-à-dire le pays qui continue à polluer, eh bien, il peut continuer à polluer sans aucune sanction. Donc, un accord sans sanction, c'est un couteau sans lame auquel il manque le manche.
Mais c'est pourquoi on se demande encore pourquoi Donald Trump a voulu partir, puisqu'il n'y a pas de sanction.
Ben, il n'y a pas de sanction parce que lui, il est climato-sceptique.
Oui, c'est ça. Oui. Pascal Richet, pour vous, aujourd'hui, Emmanuel Macron a des armes, des arguments pour faire bouger sur cette solution, même si, on l'a vu, grâce à ce retrait, Emmanuel Macron, aujourd'hui, se sert de l'écologie comme diplomatie. Hein. C'est sûr, il fait même de la communication autour de ça.
Oui, il légitime la visite de Trump, puisque en gros, on invite aussi Trump pour l'amener à la raison sur un certain nombre de dossiers, que ce soit le climat, l'unilatéralisme ou d'autres. Donc effectivement, il légitime son action. Maintenant, est-ce qu'il peut réussir à convaincre Trump de revenir dans le climat, dans l'accord COP21?
COP21, oui.
Enfin, moi, je crois pas. En tout cas, pas cette année. Mm. C'est pas très grave, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, le climat,
ce que craignent certains, c'est que ça incite d'autres, finalement aujourd'hui, à quitter cet accord.
Si vous prenez toute la séquence, qu'est-ce qui s'est passé? Ça crée un débat aux États-Unis. Il y a des tas d'États qui se sont dit, on va rentrer dans la logique COP21, ce que disait Yannick, des villes, des associations, des entreprises.
Une vraie opposition.
Donc il y a un vrai groupe pro-climat qui s'est créé aux États-Unis. Et finalement, c'est, l'un dans l'autre, c'est pas si mal.
Depuis le mois de janvier, depuis finalement l'intronisation de Donald Trump, vous dessinez toute la journée et on le sait que finalement aujourd'hui Donald Trump inspire beaucoup, notamment beaucoup d'artistes par rapport à son personnage, par rapport à ce qu'il dit ou par rapport à son physique également. Pour vous aujourd'hui, comment vous le voyez comme personnage, Donald Trump ?
En fait, il y a une rupture entre ce que personnellement ce que je voyais avant, ce que je voyais venir, à savoir une espèce de battleur, un showman qui participait à des émissions de télé-réalité. J'ai l'impression qu'il maîtrisait hyper bien son affaire et qu'une fois au pouvoir, il aurait conscience que ça serait plus compliqué, etc. Et je ne vois à l'arrivée qu'un showman, c'est-à-dire un mec qui se contredit tout le temps, qui envoie des tweets contradictoires, enfin qui réagit à chaud. Et la difficulté, c'est ça, c'est-à-dire que on pense au départ qu'on a compris que c'était quelqu'un de très intelligent. Et en fait, il est très idiot. Et donc,
il est très dangereux. C'est
pour des caricaturistes, c'est toujours déstabilisant parce que
c'est drôle que vous parliez d'idiot. Je vais vous dire, non mais attendez, regardez les faits. Ça me fait quand même doucement rigoler, ça. Ce qu'il est allé faire en Arabie Saoudite par rapport au Qatar, c'est un type qui pratique le billard à trois bandes. Il est tout sauf idiot. On ne fait pas l'empire immobilier qu'il a fait en étant un
mongoloïde neuronal.
Son père, c'était 100 millions, c'était rien. Lui, c'est 8 milliards.
C'est vrai que sur l'Arabie Saoudite, on peut aussi, par exemple, se poser la question. On a l'impression qu'il a un logiciel des années 80 en accusant l'Iran. Enfin, on ne sait plus trop. Il était un peu perdu quand même.
C'est pas le logiciel des années 80. C'est une négociation. Il joue de l'Arabie Saoudite contre le Qatar. Qui était la semaine dernière au Qatar? son ministre des Affaires étrangères, Rex Tillerson, le département d'État, pour dire au Qatar, on va s'arranger. Qu'est-ce qu'il fait avec la Chine? Il parle avec Taïwan. Il dit, attendez, croyez pas qu'on va parler que avec vous. On va parler avec Taïwan. Qu'est-ce qu'il fait en bombardant l'aéroport syrien? Il le fait en disant, moi, j'ai pas besoin de l'ONU,
André,
je bombarde. Mais, je dis à Poutine, on va bombarder. Résultat, il y a eu 4 morts et pas 400. Si vous appelez ça idiot, bah, c'est très bien.
Vous dites, il bombarde. D'accord. Il bombarde la Syrie et il vous raconte, quelques heures plus tard, qu'il a bombardé l'Irak. Il est dans cette confusion-là. Donc, Bush confondait les capitales européennes, les unes avec les autres, etc. Ouais. Et vous me dites que ce mec est un stratège qui maîtrise la géopolitique. Ouais. J'en doute fort.
En matière de géostratégie, pour revenir sur ce que vous disiez, il tient les promesses qu'il a tenues. Là, pour le coup, sur le conflit syrien, il avait dit explicitement qu'il soutenait la Syrie et Bachar al-Assad. Ça ne l'a pas empêché. Après, il a peut-être eu raison, et probablement raison, enfin, de bombarder ce qui était... de bombarder les réserves de stocks chimiques de gaz qu'avait Bachar al-Assad et qu'il jetait sur...
Il veut empêcher Bachar al-Assad
donc là, il a retourné. Mais là où je vous rejoins, c'est qu'il a une... Après, on peut être contre...
Et pourtant, ce soir, il a dit que Bachar al-Assad...
Il faut arrêter Bachar al-Assad n'était pas la solution.
Non, mais alors, pour le coup, pourquoi pas? Mais je veux dire, quand il y a des atteintes aux droits de l'homme ou aux droits de la guerre, bon, il y est allé. Maintenant, c'est pas dire qu'il est idiot s'il a... Il essaie, après, on peut être contre, mais il essaie de bouger les pions sur l'échiquier du Moyen-Orient, effectivement, en prenant le contre-pied d'Obama et en prenant fait et cause pour les sunnites d'Arabie Saoudite contre les chiites,
Obama, hein.
Contre les chiites de l'Iran. Là, c'est peut-être le seul endroit où même ses opposants, en tout cas alors qu'il est, sauf s'il change de pied tout d'un coup, lui reconnaissent une stratégie.
Une chose tout de même, parce que rapidement, on a vu quand même depuis le mois de janvier, à chaque fois, il y a quand même eu des bâtons dans les roues. Donald Trump, son Muslim Band notamment, on a vu là quand même la justice américaine s'opposer violemment. Contre cet acte aujourd'hui. En fait, c'est quoi aux États-Unis? On voit les démocrates qui sont totalement au tapis. C'est quoi? C'est des contre-pouvoirs aujourd'hui qui agissent?
Bah, heureusement, c'est un pays, effectivement, où il y a des check and balance. Je sais plus qui disait, c'est une dictature tempérée par les check and balance. Et il y a eu, donc, il y a eu la justice, il y a eu la presse, quand même, qui joue un rôle. Enfin, il y a une guerre en ce moment entre le New York Times et Donald Trump qui est très amusante à suivre. Et les journaux sortent énormément d'informations. Hein. Toute l'affaire russe, le Russiagate, est sortie par la presse. Donc, il y a la justice, et puis le Congrès. Hein, on va voir ce qui va se passer. Alors, l'impeachment, pour l'instant, est impossible, mais il suffit que des républicains décident de le lâcher pour que la procédure soit engagée.
On va y revenir dans un instant. L'info à 20h20, Pierre Bonneau.
Le magazine Paris Match, paru ce matin, va pouvoir rester en kiosque. Décision du tribunal de Paris. Le parquet avait pourtant demandé son retrait. L'hebdomadaire publie en effet des photos de l'attentat du 14 juillet à Nice, des images issues de la vidéosurveillance, selon une association de victimes. Le procureur considérait que ces photos témoignaient d'un profond mépris pour les victimes. Emmanuel Macron et Donald Trump annoncent une initiative commune et rapide sur la Syrie, impliquant les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Lors d'une conférence de presse commune en début de soirée. Le président français et son homologue américain ont parlé de convergence sur plusieurs sujets, notamment la lutte contre le terrorisme et le commerce. Des désaccords persistent sur l'accord de Paris, mais quelque chose pourrait se passer, affirme Donald Trump. Le pneumologue Michel Aubier fait appel de sa condamnation. Il avait écopé au début du mois de 6 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende pour avoir menti en 2015 à des sénateurs sur ses liens avec le groupe Total. Cette condamnation, une première judiciaire, avait été salué par les défenseurs de l'environnement comme un avertissement pour les lobbies. Aucune force ne peut arrêter la quête de l'homme pour la liberté. Voilà l'une des dernières phrases connues, écrites de la main de Liu Xiaobo avant sa condamnation en 2009. L'opposant chinois, prix Nobel de la paix, est mort d'un cancer du foie après plus de 8 années de détention. Liu Xiaobo incarnait la lutte pour les idéaux démocratiques dans son pays.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on va continuer quelques minutes encore sur la rencontre Trump-Macron, puisque c'est vraiment l'actualité du soir. Et puis voilà, il y a beaucoup de choses à dire. André Berkoff, vous vouliez
juste
réagir.
Non, juste un mot, pour rappeler ce que disait tout à fait légitimement avec Pascal Richer. C'est que c'est vrai qu'il y a les contre-pouvoirs aux États-Unis, encore plus qu'en France, d'ailleurs, il faut le dire. Mais il y a eu quelque chose de très intéressant. C'est que la Cour suprême, qui est quand même l'organe, l'alpha et l'oméga des États-Unis, la Cour suprême a appuyé à l'unanimité le travel ban, le fameux travel ban de Donald Trump. Et j'étais moi-même extrêmement étonné parce que c'est vrai qu'il y a 5 républicains, mais 4 démocrates. Or, à l'unanimité totale, avec zéro opposition, la Cour suprême a approuvé le travel ban. Ce qui fait que Trump n'a pas que des échecs et n'est pas uniquement en train d'enregistrer des échecs.
Il a revu sa
C'est
copie.
Ça qu'il y a eu.
Il a revu sa copie. Oui, il a revu sa copie, il l'a corrigé à la main. Non, mais ce qui est important à dire, effectivement, Trump reste très populaire. Aux États-Unis, il y a des contre-pouvoirs. Au sein de son électorat, ce qui est important démocrates qui ont voté contre, il reste extrêmement populaire malgré les mesures extrêmement négatives dans leur impact, c'est-à-dire par exemple le détricotage à venir de l'Obamacare, de la sécurité sociale pour les classes moyennes, on va dire. Mais malgré tout, dont pâtissent ses propres électeurs.
Et pourtant, ça des présidents les plus impopulaires jusqu'à présent.
Oui. Il a été un des plus impopulaires, mais je compare par rapport à son élection. Il reste très populaire parce que il représente, c'est ce que les commentateurs disent là-bas, ce pourquoi il a été fondamentalement élu, c'est l'homme. L'américain blanc. Il y a quand même une motivation, ça vous déplaît peut-être, mais tant pis. Une motivation raciale, voire raciste, dans son élection, qui est réelle et qui fait qu'il reste quand même non inquiété. On voit dans les élections.
Le racisme revient. Si on voit dans blanc, les
élections. On voit dans les élections intermédiaires de certains États où les républicains sont de nouveau, sur la base d'un programme Trump, sont de nouveau élus.
J'allais vous dire que 4 élections partielles aux États-Unis, 4 victoires des républicains. Si vraiment il était en perte de vitesse totale, on l'aurait vu dans ces élections partielles.
C'est bien ce que je vous dis.
Yann Lanning, depuis le début de son élection, on l'a vu, il nourrit beaucoup de nos commentaires, beaucoup de presse également.
Heureusement qu'il est là, sinon on vendrait quoi.
Donald Trump, c'est ça qui est assez, quand même, assez étonnant de la part de ce président. On le voit en effet, c'est quelqu'un qui peut partir en Arabie Saoudite et publier sur Twitter un montage où il catch avec CNN, par exemple. C'est ça qui paraît quand même assez étonnant.
Ce mec, il nous déroute un peu. Et puis, on peut se dire aussi que c'est peut-être ce qui nous attend dans quelques années. Mais un président américain qui traîne dans sa cohorte là des créationnistes, hein, Mark Pence, Mike Pence,
le vice-président,
qui prétend que Noé a pas pris les dinosaures sur son arche. Je suis désolé, André Bercoff, on a quand même, on imagine ça en France. Enfin,
je suis d'accord avec vous, mais attendez, l'Amérique est truffée d'évangélistes fous. C'est pas nouveau, ça existe depuis le début.
Le problème, c'est qu'il est vice-président, André Bercoff.
Enfin, c'est pas lui. On n'applique pas
le cas d'impeachment qui sera président.
Effectivement, si on vire Trump, ce qui arrive derrière,
c'est pour ça qu'il faut garder Donald Trump.
D'accord, c'est ça votre argument en fait. Alors, Jeannine Calimi, il y a aussi une chose. Là, il prend l'air aussi à Paris, parce qu'il y a un petit souci quand même avec son fils, qui a publié sur Twitter les échanges de mails avec une avocate russe qui lui aurait donné des renseignements sur Hillary Clinton pendant la campagne. Oui. Ça paraît complètement fou déjà, ce que je viens de dire.
Ça paraît.
Mais c'est là où on voit quand même, il y a toujours le poids de la Russie. On en parle tout le temps, en permanence, associé à Donald Trump.
Oui, exactement. Oui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour lui, c'est une bouffée d'oxygène et de notabilisation, si je puis dire, parce qu'aux États-Unis, il est extrêmement décrié, non seulement par les opposants démocrates, la presse dont vous parliez, New York Times et autres, mais aussi par la justice. On le dit, il y a des enquêtes qui sont ouvertes. Mais alors, ce que disait son fils, c'était aussi en partie pour le dédouaner, parce qu'il disait dans son tweet, mais attention, mon père n'était pas au courant.
Ce qui est dingue, c'est parce qu'il y a effectivement les documents du fils, mais dedans on apprend qu'il y a eu une réunion avec le fils, avec Jared Legendre et avec le directeur de campagne. Donc là, on se rapproche vraiment premier cercle de Trump.
Alors attendez, André,
on peut lui laisser le bénéfice du doute jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui c'est plus possible.
Qu'est-ce qu'ils se sont dit?
Quand Jean Lassalle, il y a quelques mois, pendant sa campagne, disait j'ai rencontré Bachar el-Assad, je lui dis les yeux dans les yeux, est-ce que vous avez fait des crimes de guerre? Et Bachar lui dit non. Voilà, bon. Alors là, Trump rencontre Poutine et lui demande est-ce que tu as intervenu dans la campagne américaine? Poutine lui dit mais non. Et Trump dit mais non, vous voyez, il l'a dit. Enfin, on en est quand même dans une pantalonade extraordinaire. Nous, ça nous fait rire ici.
Mais cette pantalonade extraordinaire, quand même, c'est quand même fabuleux, est basée sur quoi? Sur rien. Mais James Comey, l'ambassadeur, a été viré par Trump. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'avait rien dit quand il y a eu les WikiLeaks sur Hillary Clinton, qui montrait comment Hillary Clinton, alors département de la secrétaire d'État, monnayait la présence des gens qu'elle recevait contre des millions donnés à la fondation Clinton. C'était autre chose que les petits entretiens de Trump. C'est pas pour défendre Trump.
Mais c'est la même histoire.
Mais ce n'est pas du tout la même histoire. Il n'a pas été payé, il n'a pas besoin de ça. La grande différence, les Trump recevaient du fric, les Clinton, pardon, avec Clinton, recevaient du fric du matin au soir. Les Clinton, c'était des Thénardier. Trump, il n'a pas besoin de ça. Pas du tout. Les Américains ont voté pour lui parce qu'il n'est ni achetable, ni en a.
André Berkoff, ce n'est pas des conflits d'intérêts d'argent qui sont...
Ce n'est pas des conflits d'argent.
Ce
sont les Russes qui ont fait sans Trump.
Des interférences dans le processus électoral américain.
100 millions d'Américains ont voté Trump. Absolument lobotomisé par les Russes.
On va tourner la page américaine dans un instant. On parlera de la polémique autour de Paris Match et puis on reviendra autour des différentes réformes voulues par Emmanuel Macron. Il veut accélérer le tempo. Voilà la suite du programme des informés de France Info.
Vous savez que l'argent ne fait pas tout. Vous souhaitez juste qu'il en fasse plus.
La financière de l'Échiquier prend soin de votre épargne. Parlez-en à votre conseiller. La financière de l'Échiquier. Des valeurs à partager.
Cet été, restez connectés à France Info.
Toute l'actualité, des alertes, des vidéos avec l'application mobile
France Info. France Info Météo avec CIC et vous. Bienvenue dans une banque digitale et surtout humaine. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Les éclaircies prendront le dessus demain autour de la Méditerranée, du soleil toute la journée, mais le vent se renforcera jusqu'à 90 km à l'heure pour le Mistral. Partout ailleurs, la matinée sera changeante, des nuages très nombreux de la Bretagne au Pas-de-Calais, au pied des Pyrénées. Quelques gouttes possibles dans le nord-est. On aura des éclaircies aussi, très belles entre Poitou-Charentes, le centre et les Ardennes. L'après-midi, les éclaircies s'imposeront, un beau soleil près de l'océan, mais ça restera très chargé près des Pyrénées. Pour les températures, peu de changements. Le matin, il fera 10 à 17 degrés jusqu'à 23 dans le sud-est. Et puis l'après-midi, 19 degrés au Havre, 21 à Lille, 24 à Paris, Nancy, 26 degrés à Nantes et Bordeaux, 27 pour Lyon et Toulouse, 28 à 35 toujours en Méditerranée, les 35 pour Montpellier.
Imagine une capitale internationale, mais à 1h50 de la capitale. Strasbourg, t'imagines même pas.
France Info.
De quoi ? Ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Maxime Fayol, bonsoir.
Bonsoir, une conférence de presse conjointe et peu d'annonces ce soir entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Le président américain est apparu depuis ce matin. Il a fait le bilan ce soir des discussions avec son homologue français, notamment sur l'accord de Paris.
Quelque chose pourrait se passer au niveau de l'accord de Paris. On verra ce qui se passera, mais nous en parlerons à l'avenir. Et si là se produit, ce sera formidable. Dans le cas contraire, ce sera acceptable également. Mais on verra ce qui se passera. Mais nous avons parlé de beaucoup de sujets aujourd'hui, y compris le cessez-le-feu en Syrie. Nous avons parlé de l'Ukraine, de beaucoup de dossiers. Et nous avons très brièvement parlé de l'accord de Paris. Et on verra ce que donnera la suite.
Donald Trump et sachez que les chefs d'État, Emmanuel Macron et Donald Trump, vont dîner ensemble ce soir à la Tour Eiffel. Et pendant ce temps, aux États-Unis, le Congrès veut entendre le fils de Donald Trump après les révélations publiées sur son compte Twitter. Donald Trump Jr. affirme avoir rencontré une juriste russe qui pouvait lui fournir des informations compromettantes sur Hillary Clinton pendant la présidentielle américaine. Emmanuel Macron, lui, s'est exprimé devant les militaires juste après cette conférence de presse avec le président américain. Le budget de l'armée qui sera diminué cette année, c'est un effort légitime et faisable, selon le chef de l'État. Le budget de l'armée sera ensuite réaugmenté en 2018. Une Française de 27 ans et ses 4 enfants retenus par l'armée irakienne à Mossoul depuis près d'une semaine. Son mari serait décédé, le couple est parti rejoindre les rangs de l'État islamique en 2015. Mais la jeune femme prétend aujourd'hui ne plus soutenir les terroristes et vouloir rentrer en France. La colère du conseil départemental de la Corrèze. La SNCF a décidé de supprimer les correspondances dans ce département pendant la liaison Paris-Nîmes. Il n'en reste plus qu'une seule par jour. Une situation qui pénalise les habitants de la Lozère, mais aussi ceux de la Haute-Loire et du nord du Gard, selon le conseil départemental. Pas de changement pour le livret A. Le taux sera maintenu à son niveau le plus bas historique, 0,75% au mois d'août. Le gouvernement refuse de le faire remonter à 1%, comme le prévoit la formule de calcul préconisé par la Banque de France. Très belle victoire aujourd'hui de Romain Bardet sur le Tour de France sur les hauteurs de Péragude. Le Français s'est imposé au sprint. Il revient à 25 secondes du maillot jaune au classement général. Un maillot qui est ce soir sur les épaules de l'Italien Fabio Aru. Il devance Chris Froome de 6 petites secondes. Demain, 101 km entre Saint-Giron et Foix. Une étape courte mais qui promet d'être rythmée. Et en tennis, Venus Williams s'est qualifiée pour sa 9e finale sur le gazon londonien de Wimbledon. Elle affrontera l'Espagnole Garbin Muguruza pour tenter de remporter un 6e titre à Wimbledon. L'Américaine n'a plus gagné de grand chelem depuis 2008. La finale, c'est samedi. 20h33, la suite des informés de France Info, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils n'hésitent jamais à agiter la mouletta devant le museau de l'actualité sauvage. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Yannick Halimi du Parisien Aujourd'hui en France, l'écrivain André Bercoff, Pascal Richer de l'Obs et Yann Lindingue, rédacteur en chef de Flûte Glaciale. Alors demain, le 14 juillet sera particulier, voire inédit, pas seulement parce que et c'est vrai, la fanfare militaire présente sur les Champs-Élysées jouera un morceau de Daft Punk. Il y a eu un communiqué d'ailleurs, ils en sont très fiers. Mais surtout pour l'hommage, bien sûr, rendu aux victimes un an après l'attentat de Nice. Une journée entière consacrée aux souvenirs avec de très nombreuses cérémonies, discours et minutes de silence. Demain, tous les médias se mettront au diapason de cet hommage. Et a pris un petit peu d'avance, c'est Paris Match. Et oui, le journal qui aime les stars en vacances aime aussi le violent. Le numéro de cette semaine revient sur l'attaque de Nice avec des photos issues des vidéosurveillances de la promenade des Anglais. Ce soir-là, d'autres venant du dossier judiciaire, un peu sanglante, traumatisante pour certains. Quand on ne trouve plus de mots, on peut dire trash. Paris Match invoque le droit à l'information. Alors, le parquet n'a pas requis d'interdiction de vente, mais plus d'interdiction de publication des photos et a demandé à Paris Match de retirer ces photos de son site internet. Depuis ce matin, de nombreuses familles de victimes ne décolèrent pas et ça peut se comprendre selon l'ex-secrétaire d'État aux victimes, Juliette Méadel.
J'ai vu des photos dans le passé qui étaient bien plus choquantes que celles-ci. Mais en la matière, moi, je ne donnerai de leçons à personne. À partir du moment où vous avez été victime d'un drame et où vous vous sentez atteint par une image, j'entends l'indignation et j'entends qu'on puisse se sentir atteint, humilié, notamment si on peut reconnaître un proche. Mais bien entendu, la presse est parfaitement libre. Il y a le droit à l'information. Et chaque responsable médiatique en est responsable, le principal débiteur.
Voilà, l'ex-secrétaire d'État aux victimes, Juliette Méadel. Pascal Richer, quand Paris Match invoque le droit à l'information, est-ce que pour ces genres de photos, est-ce que c'est...
Écoutez, moi, quand j'ai entendu l'information ce matin à la radio, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça va être encore un truc voyeuriste, le choc des photos, etc. Bon, j'ai regardé le journal. Il n'y a rien qui m'ait choqué, en fait. Parce que c'est du travail journalistique qu'ils ont fait. Ils ont reconstitué tout ce qui s'était passé. Ils ont interviewé des victimes. Ils ont publié les photos qu'avait pris le terroriste pour préparer son attentat. Donc vraiment, ils informent les gens. Franchement, il n'y a rien à dire.
On voit certaines photos quand même qu'on n'avait pas l'occasion de voir auparavant.
Les photos les plus choquantes, et encore, ce n'est pas les pires, parce qu'il y en a évidemment des pires. On les avait déjà vues. Certaines, on voit dans la nuit, flou, loin, on ne reconnaît personne. Et la seule photo choquante, c'est le corps du terroriste tué qu'on voit avachi dans le camion avec son visage flouté. Mais c'est la seule qui soit vraiment gore ou trash. Quoi. Les autres, franchement, ne sont pas choquantes. Maintenant, comme dit Juliette Méadel, je comprends que des familles soient choquées, bien sûr. Mais Je pense que le droit à l'information est un droit vraiment fondamental dans une démocratie et je trouve totalement disproportionné l'action du parquet.
Et Yann Lamingre, pour vous, est-ce que finalement c'est disproportionné? Est-ce que c'est un droit de l'information, comme dit Paris Match? Le parquet ce soir dit pas d'interdiction de vente.
Moi, je trouve que c'est normal qu'il n'y ait pas d'interdiction de vente, mais mon confrère m'éclaire sur le contenu parce que, a priori, j'écoute les médias, je me dis, ça sert à rien. Un an après, on n'est plus dans l'information, on est dans le voyeurisme. Après, effectivement, s'il n'y a pas de gros plans sur des enfants morts, etc., c'est moins dérangeant. Mais je suis pour la liberté d'expression. Personnellement, quand je ne veux pas voir, je détourne le regard ou je n'achète pas. J'imagine pas faire interdire un journal non plus. Voilà. J'ai une réponse de Normand, mais il faut rester, je pense, dans cette position.
Oui, on se souvient tout de même, c'est vrai, Yannick Halimi, du Point. C'est vrai, après les attentats contre Charlie Hebdo, faisant sa une avec l'assassinat d'un policier par l'un des frères Kouachi, après avoir attaqué Charlie Hebdo. Ça avait été une une qui avait été finalement floutée, mais est-ce que finalement on est dans le même cas là? Est-ce qu'on est dans ce droit finalement qu'invoquent certains journalistes en disant droit de l'information?
Comme Pascal Richer, j'ai regardé tout de suite le reportage, enfin si on peut dire a posteriori, de Paris Match, moi je n'ai rien vu d'atteinte à la dignité. Mais on voit bien qu'on est au cœur de deux injonctions contradictoires, hein, qui est l'une étant le droit à l'information et l'autre étant bien sûr le respect des victimes, des survivants, des familles, une émotion bien légitime. Évidemment. Moi, dans ce cas-là, je me raccroche au droit. Alors, je suis pas juriste, mais il y a deux éléments de droit qui peuvent peut-être nous donner une réponse. Il y a la loi Guigou de 2000 qui fait de ce type de photo une infraction possible, mais uniquement si ça remet en cause la dignité de victimes qui sont encore vivantes.
D'accord.
Première chose. Et le deuxième élément, ces photos ont été tirées de vidéosurveillance qui étaient dans le dossier d'instruction. Oui, alors, est-ce qu'il y a un viol, un non-respect du dossier d'instruction, un recel, etc.? Dans ce cas-là, moi, je suis pour faire jouer des leviers judiciaires parce que je ne suis incapable de trancher entre les deux injonctions.
André Bercoff, il y a une limite aussi entre droit d'information, émotion des victimes, un an après.
No comment sur l'histoire de Match parce que ça ne me paraît pas mériter 3 heures de discussion. Ouais. En revanche, vous rappelez qu'il y a eu une campagne pour dire qu'il ne faut pas donner le visage des terroristes et les flouter.
Oui.
Je trouvais ça tout à fait obscène.
Ni le nom également.
Parce que ni le nom. Je trouve que les gens qui commettent ces crimes, il faut savoir qui c'est, il faut les reconnaître et les nommer. Deuxièmement, je voudrais juste signaler quelque chose, vous rappeler que dans cette histoire de Nice, il y a eu une policière, Sandra Bertin, qui a refusé de faire un faux témoignage qui avait été attaqué par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve. Cette policière, je le dis, a été relaxée. Parce qu'elle avait dit que, justement, elle ne voulait pas faire un faux témoignage sur ce qui s'était passé. Oui. C'est une info.
Sur ce droit de presse, vous-même qui avez écrit dans de nombreux journaux, est-ce que ça vous choque, vous-même, ces photos dans Paris Match? Est-ce que c'est un droit de l'information?
Écoutez, le droit de l'information s'arrête où ça devient, effectivement, c'est difficile, mais je rejoins tout à fait mes confrères là-dessus, où commence le voyeurisme, où commence l'obscénité, et où est le droit à l'information? C'est très difficile de mettre le curseur.
Le curseur, il n'est pas simple à trouver et...
Pas évident. Où mettez le gore? On voit très très bien des vidéos, vous savez très bien, de Daesh, vidéos d'égorgement, de décapitation sur Internet.
Et même pas seulement que ça.
Il y a des règles de droit.
Qu'est-ce qu'on fait?
S'en sortir qu'avec des règles de droit. Alors ça passe peut-être par des procès, mais enfin l'application de loi.
Allez, dans un instant, on va parler, on va revenir à la vie politique française avec les nouvelles mesures d'Emmanuel Macron. Il veut aller vite sur tous les sujets. Ça va être incroyable. L'info à 20h40, Thierry Bonneau.
Programme chargé ce soir pour Emmanuel Macron, puisqu'entre deux poignées de main avec Donald Trump, le chef de l'État vient de prononcer un discours devant la communauté militaire à la veille du 14 juillet. Le président annonce que le budget de la défense sera porté à 34 milliards d'euros en 2018, en augmentation donc par rapport à cette année. Autre annonce d'Emmanuel Macron, une commission chargée de lui faire des propositions sur son projet de service national universel. Et puis l'opération Sentinelle va être revue en profondeur, dit-il ce soir. Emmanuel Macron, qui se dit étonné que la visite de Donald Trump en France suscite autant de débats et de protestations, c'est ce que nous devons aux États-Unis pour le centième anniversaire l'anniversaire de l'intervention américaine lors de la Première Guerre mondiale. Voilà ce qui a affirmé tout à l'heure le président français lors d'une conférence de presse commune avec la chancelière allemande Angela Merkel à Paris, juste avant donc d'accueillir officiellement son homologue américain. Le ministère de l'économie annonce le maintien du taux de rémunération du livret A, 0,75%. Chaque semestre, le taux du placement préféré des Français est révisé. Il ne bougera donc pas cette année en dépit d'un niveau d'inflation qui aurait dû le conduire à le relever d'un quart de point. Et puis la ville de Marseille reporte son feu d'artifice à samedi en raison de la météo dans le sud de la France. Le vent souffle fort, au moins à 80 km/h ce soir.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, petit retour en arrière. On se souvient de Nicolas Sarkozy, président qui se vantait de pouvoir résoudre les problèmes de la France et du monde très très rapidement. Le lundi, le chômage, le mardi, la pauvreté, le mercredi, le conflit israélo-palestinien. Bref, ça allait tellement vite qu'on se demandait s'il n'y avait pas trop de jours dans la semaine. Eh bien, il y a un peu de ça chez Emmanuel Macron, puisque dans Ouest France, aujourd'hui, il explique qu'après la loi travail, il s'attaquera l'automne-hiver à l'assurance chômage et une petite réforme des retraites, voilà, au premier semestre 2018. C'est à peu près tout. Ah ben non, il y a aussi une réforme de l'éducation au passage, mais ça c'est pour se donner un peu plus d'acidité à la sauce Emmanuel Macron. Pascal Richer, Emmanuel Macron veut aller vite. Est-ce que c'est un argument qui tient aller vite sur ce genre? Est-ce que ça...
Oui, dans sa logique, oui. Parce que lui, ce qu'il veut créer, c'est un choc. Il pense que la France est perclue de rigidité et donc il faut casser ses rigidités, rigidité soit fiscale, soit effectivement sur le marché du travail. Et donc, il faut s'y attaquer tout de suite pour créer une espèce de choc de confiance, notamment vis-à-vis des investisseurs étrangers et de nos partenaires allemands. D'ailleurs, c'est à noter que cette interview, j'ai découvert ça tout à l'heure, a été donnée à Ouest France et à des journaux allemands.
Exactement. C'est en prévision à la visite d'Angela Merkel.
Oui, alors il a mis Ouest France dans le lot, mais en fait, il s'adresse aux Allemands. Et, voilà. Regardez, moi, regardez mon calendrier, je fais mes réformes très rapidement. Bon, alors il y a cette raison-là.
L'autre
raison,
d'après, comme
l'autre raison, oui, pour dire qu'il est bon élève, effectivement, et ensuite pour pouvoir négocier des réformes, notamment de la zone euro. Qui irait dans le sens des intérêts français. L'autre raison, à mon avis, c'est qu'il veut, comme il y croit à ces réformes, à tort ou à raison, il veut en récolter les fruits avant la fin de son quinquennat. Et s'il fait comme Hollande, s'il attend 2 ans avant de faire des réformes, il fera comme Hollande, il ratera la fin de son quinquennat. Donc il veut toucher les fruits de ces réformes-là avant les 5 ans.
Alors, Yann Lindingre, est-ce que... Dans Ouest France, c'est assez étonnant parce que le président de la République explique, je cite, « Jamais un gouvernement n'a mené une réforme ambitieuse aussi rapidement à propos de la loi travail. » Est-ce que ça signifie qu'une réforme rapide est bonne ?
Déjà, je sais pas. Enfin, en tout cas, la priorité, cette priorité là de la loi travail, je me dis, mais enfin, on a quand même un Bolloré qui refuse de payer les cotisations à la SACEM. On a un Arnaud qui vient de s'enrichir de 56%. Son capital a pris 56%. Les milliardaires français ont se sont enrichis de 21% en 2016. Donc quelque part, tout va bien. Il y a toujours 60 milliards d'euros d'évasion fiscale. Et il faut réformer la loi travail tout de suite. Là.
Tout de suite.
Bon, il n'y a pas d'autres priorités. Enfin, je ne sais pas. Moi, je me pose la question. Là. Enfin, bon.
Il l'avait annoncé d'ailleurs pendant sa campagne. Il a dit ça sera.
Apparemment, c'est pas le code du travail qui empêche les gens de s'enrichir ou les patrons de faire ce qu'ils veulent.
Il a défendu pendant sa campagne. Il a gagné l'élection. Donc ça veut dire que.
Enfin bon, oui. Voilà. Moi, je ne placerai pas les impératifs au même.
Ah, ouais. André Berkoff. Non, sur cette rapidité, non, voilà, quand
moi
il
je
dit,
rejoins le plus glacial des fluides en disant que c'est effectivement pas franchement la priorité absolue, cette loi travail. Il y a vraiment d'autres choses avec 6,5 millions de chômeurs.
Bah justement, ils disent que pour réduire le chômage, on fait la loi travail.
Non, mais attendez, le code du travail, il y a déjà 400, je veux bien, mais tout le monde l'a fait, ça continue, etc. Le problème, c'est d'appliquer les lois. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le problème, c'est les carnets de commandes des entreprises. Le problème, c'est effectivement cette évasion fiscale de je ne sais 60 milliards, c'est beaucoup plus des milliards. Le problème, c'est ça. C'est-à-dire, pour qui il fait? Macron serait un homme d'État s'il trahit ceux qui l'ont porté au pouvoir. C'est pas demain de la veille. Mais c'est ça, le vrai problème.
Ouais, problème c'est ne trahit pas. C'est une réforme qui est difficile de faire parce en dehors de la première année. Parce que s'il l'a fait dans un an ou dans 2 ans, il aurait tout le monde dans la rue.
C'est-à-dire qu'il a tiré les leçons de François Hollande, de
il profite de son état de grâce. Il sait qu'il a 100 jours pour faire avancer ce truc. Il met les ordonnances pour pouvoir avancer.
Jeanne Calimi.
Non, mais je suis tout à fait d'accord. Après, on peut penser ce qu'on veut de ces réformes-là. On peut être contre. Là, vous prenez encore une fois une relance keynésienne par la demande. On a vu que ça marchait pas immédiatement. immédiatement, ça, mais... en tout cas, qu'il y avait des effets pervers. En tout cas, c'est vrai que Emmanuel Macron, par du fait qu'il a été, comme vous disiez, Pascal, il a été élu sur des réformes tout de même structurelles, reconnaissons les choses, on est pour, on est contre, ce sont des réformes structurelles qui vont toucher à des intérêts établis, peut-être pas ce qu'il faut, mais en tout cas, voilà,
sur les
qui
impôts,
vont
en tout
remettre
cas,
en cause
pas...
certains avantages, et ouais. il faut le faire dès les premiers mois, fort de la légitimité de son élection. Tout ce que n'a pas fait François Hollande. Moi, ce qui me gêne le plus dans tout ça, c'est qu'en l'espace de 8 jours, il y a une volte-face totale.
Vous inquiétez pas, Jeannick, je vous ai réservé une petite question.
Moi, je m'inquiète pas.
Il y a un truc que je trouve en tout cas génial dans sa stratégie, là, en tout cas, c'est il promet donc tout de go là, des augmentations des indemnités de licenciement pour tenir les syndicats tranquilles, le temps de passer les lois tranquillement, les réformes cet été, tant que les syndicats ou les ouvriers sont pas dans les rues. Enfin, j'attends vraiment la rentrée pour voir l'efficience de ces déclarations-là, des augmentations, des indemnités de licenciement. C'est complètement fou, ce truc.
Pascal Richet, est-ce que c'est ça aussi? Est-ce que les Français aujourd'hui, peut-être, ne regardent plus, peut-être d'un œil, parce que c'est normal, c'est les vacances qui commencent. Est-ce que c'est vrai que cette rentrée, c'est là où ils vont s'apercevoir, peut-être, qu'il s'est passé des choses?
Peut-être. Il a accepté, de façon un peu surprenante, il a accepté de retarder son calendrier d'un mois et donc de passer cette loi avant la fin de l'été. Et là, effectivement, les syndicats peuvent mobiliser. Il l'a pas fait au milieu du mois d'août, quoi.
Donc c'est peut-être le 12 septembre là pour les syndicats.
La
CGT. Le 12 septembre.
Oui, le 12 septembre. Voilà, c'est ça. La mobilisation qui commence.
C'est ça.
Donc effectivement, si cette loi va trop loin dans le sens de la casse du code du travail, comme on dit à la CGT, il peut y avoir des mouvements dans la rue. Et c'est vrai qu'il touche au code du travail assez profondément. Hein. C'est pas rien. Il y a des choses importantes qui sont.
Et pourtant, malgré cette mobilisation, hier, on a vu Jean-Luc Mélenchon avait lancé une mobilisation. Ça n'a pas été un très très grand succès, Jeannick Haïmi. C'est juste, il fallait quand même marquer le coup.
Il fallait marquer le coup. Écoutez, là, si on veut parler de la stratégie de Mélenchon, il est présent avec 18 députés. Il est 17 plutôt. Il est présent à l'Assemblée.
Il se fait entendre.
La seule opposition audible, voire crédible. Et il joue aussi son rôle de mobilisation dans les rues. Alors avec des succès très 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 mitigés, mais ça, il le sait. Mais c'est une politique de long terme qui veut mener. Ça passera pas seulement par des oppositions à des projets de loi et des textes de loi. Il veut s'implanter et asseoir l'assise qui est la sienne dans la classe ouvrière, dans les petits fonctionnaires, pardon pour petits, enfin modestes. Récupérer une partie des voix socialistes et partie des voix du Front National.
Le vrai problème, c'est que est-ce que Macron, c'est vraiment ça, accorde-lui le bénéfice du doute, et qui va protester s'il fait des lois qui vont vraiment transformer en profondeur un certain nombre de choses en France. Le problème, c'est que toute réforme a ses gagnants et ses perdants. Toute réforme véritable entraîne évidemment des hurlements de la part de ceux qui vont perdre. Tout le problème est qu'il va réussir à équilibrer, il va réussir à avoir surtout le courage de l'impopularité, et ce qu'il va réussir à dire, je ne vais pas faire plaisir à tout le monde, parce que faire plaisir à tout le monde, c'est ne faire plaisir à personne, et arriver comme Hollande, voilà. On va juger.
Le problème, c'est qu'on attend toujours finalement aussi de savoir ce qu'il y aura dans cette loi, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on le saura au cœur de la tête.
C'est toujours pareil qu'en même temps, c'est un plateau, c'est deux plateaux, et on ne sait pas ce qu'on met dans les plateaux. Pour l'instant, dans la flexibilité, sécurité. On est plutôt dans la flexi que dans la sécurité.
Oui, mais
je vais être très actuel dans mes valeurs. J'ai l'impression qu'on, je suis pas économiste, mais on déshabille Paul pour habiller Pierre. Cette histoire de diminuer les charges salariales en augmentant la CSG, etc.
Ça, c'est une bonne mesure.
C'est une bonne mesure, mais à l'arrivée, quel équilibre on va obtenir? Est-ce qu'on va faire des miracles? Certainement pas. Enfin, j'ai pas l'impression que ça va sortir.
On va continuer à parler de ces réformes dans un instant. L'info à 20h50, Pierrick Bonneau.
Emmanuel Macron respecte la décision de Donald Trump sur le climat, mais reste attaché à l'accord de Paris. Le président français l'a dit à son homologue américain tout à l'heure lors d'une conférence de presse commune à l'Élysée, avant d'aller dîner dans un restaurant du deuxième étage de la Tour Eiffel. Les deux chefs d'État ont fait état de leur convergence sur plusieurs sujets, notamment la Syrie. Ils annoncent d'ailleurs une initiative rapide pour régler le conflit. Mais le président français ne fait pas de la destitution de Bachar al-Assad une condition préalable. Emmanuel Macron, qui ne juge pas digne certaines critiques sur la réduction des moyens de la défense en 2017, est le président d'annoncer une augmentation du budget des armées en 2018, 34 milliards d'euros malgré l'effort budgétaire. Mise en examen ce soir de la mère accusée d'avoir congelé ses trois bébés à Lorient, elle affirme aux enquêteurs les avoir étouffés avec un coussin avant de les conserver pendant plus d'une dizaine d'années dans un congélateur. La mort du premier chinois prix Nobel de la paix, le dissident Liu Xiaobo, a succombé à un cancer à l'âge de 61 ans, annonce des autorités chinoises. Liu Xiaobo avait été condamné en 2009 à 11 ans de prison pour subversion. Il était hospitalisé depuis plusieurs jours. La Chine porte une lourde responsabilité dans sa mort prématurée, selon le comité Nobel norvégien. Et puis le français Romain Bardet remporte la 12e étape du Tour de France. Du changement ce soir à la tête du classement, le britannique Chris Froome perd le maillot jaune que récupère l'italien Fabio Aru.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on parle de toutes ces réformes engagées par Emmanuel Macron. Il veut aller très vite, Emmanuel Macron, sur le front de l'emploi, du chômage également, sur les retraites, l'éducation, et faire des économies aussi au passage. C'est ça qui est assez étonnant. Jeanne Calimi, vous me disiez tout à l'heure que vous aviez été surpris, comme beaucoup finalement, oui. Alors par ce imbroglio un petit peu, on peut dire ça comme ça, entre Matignon et l'Élysée finalement.
Et l'Élysée, on a été tous, je pense, surpris par le discours de politique générale la semaine dernière du Premier ministre. Ministre, où il reportait pour faire vite les grandes mesures, la taxe d'habitation, la transformation du CICE. D'ailleurs, ça c'est encore reporté, ça coûte extrêmement cher. Bon, tout le monde pouvait être surpris, le fait de ne pas tenir des promesses aussi centrales dans le programme du candidat Macron. Et là, bon, on est surpris. Et là, on entend, Emmanuel Macron remettre son Premier ministre au carré et dire mais non, à part encore une fois le CICE. Qui est encore une fois reporté d'un an. Non seulement il rappelle que tout ça se fait dans les temps, la taxe d'habitation, l'ISF et compagnie, et en plus il remet sur le tapis l'exonération fiscale des heures sup. Enfin, oui. Alors on peut être ravi du fait que les promesses qu'il avait faites soient tenues dans les temps, mais ça prouve quand même qu'il y a quelque chose.
Un problème d'organisation, peut-être.
C'est un problème de communication, d'organisation.
Le problème vraiment d'Emmanuel Macron. Le docteur Emmanuel a le mystère Macron. Mmh. Il y a vraiment ça. Regardez, vous venez de parler des dépenses militaires.
Oui.
Hein, et attendez, tous, on a parlé aussi de ça. 800 millions de moins dans le budget militaire.
850.
On a parlé de ça. Bercy veut tailler à la défense, etc. Et on a vu aujourd'hui, à la télévision, le général Pierre de Villiers, chef d'état-major, en train de gesticuler devant Macron. Enfin, en tout cas, je sais pas ce qu'il se disait, on lit pas sur les lèvres, mais enfin, c'était assez fort. Bon. Et là, il vient de dire, non, des milliards, on va ajouter. Ça, c'est très embêtant. C'est-à-dire que, il faudrait quand même qu'entre eux, ils se mettent d'accord et qu'ils cessent ces effets d'annonce contradictoires.
Et pour aller dans votre sens, c'est vrai que le Premier ministre, dans son discours de politique générale, avait dit qu'ils allaient sanctuariser le budget militaire et le monter, justement, comme le réclamait de Villiers à 2% du PIB.
Ensuite, c'est Bercy qui dit moins 800 millions.
C'est un peu compliqué, Pascal Richer, c'est vrai, ces histoires d'économie,
il est comme ses prédécesseurs dans le piège des 3%, quoi. On n'en sort pas, quoi.
Ouais.
On n'en sort pas. Il décide de les respecter. Il a annoncé qu'il les respecterait. Vis-à-vis de l'Allemagne, c'est très important, donc il doit le faire. Et puis, rend compte que ces réformes ne rentrent pas dans le cadre. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Élargir le cadre, diminuer les réformes, etc. Et il est dans ce piège-là. Alors, il va essayer de faire au pas de charge des économies budgétaires. Là aussi, c'est pas pensé. En principe, il va reprendre le rabot, quoi. Le rabot des prédécesseurs, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, 850 millions par-ci. Alors que ce qu'il faudrait, c'est réfléchir sur une réforme de l'État et se dire qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est inutile, quelles sont nos priorités.
Il va le faire.
Mais là, il a saupoudré les coupes.
Il annonce les fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires, la suppression des départements. Enfin, il a tout ça.
Et tous les ministères également.
Et tous les ministères aussi.
57% de dépenses publiques du PIB.
C'est 57%. Pas totalement occulté dans sa façon de gérer l'État et de gérer les deniers publics.
Diane Lemann, vous vous apprêtez à faire des économies, justement, en tant que bon citoyen ou pas ?
Pardon, je réponds à côté de la plaque. Non, j'étais en train de penser au déjeuner ou au dîner qu'il y a eu entre Macron et les Sarkozy.
Mmh, ah oui,
Macron
oui.
En train de lui dire, putain, mais comment t'as fait, toi, alors, quand il était? Et puis Sarkozy qui lui tourne le dos pour parler avec Brigitte, qui a voté pour lui, apparemment, qui lui dit,
ah oui, c'est vrai.
Toi, t'étais un bon mec. Et Sarkozy qui ressort.
J'ai voté pour toi.
Moi, j'aimerais quand même, c'est pas que je sois pas d'accord avec vous, Pascal, mais tout de même, à force de dire, il y a l'Allemagne, il y a l'Allemagne, il y a l'Allemagne. C'est vrai, il y a l'Allemagne, le piège des 3%, c'est vrai. Mais attention, Emmanuel Macron, d'abord, on est obligé, on est endetté, on va pas, bon, après, quand je dis on est obligé, c'est une façon peut-être libérale, entre guillemets. Mais ce que veut faire Emmanuel Macron, tout de même, et ce en quoi il est différent de Hollande, c'est qu'il veut montrer quand même, que la France a de la bonne volonté et qu'elle s'attaque vraiment et aux réformes financières et aux réformes structurelles, mais pour entraîner Angela Merkel, non pas pour se caler sur la rigueur d'Emmanuel de Merkel, mais pour tenter de l'entraîner dans plus de solidarité de la part de l'Allemagne. Et dans une construction véritablement européenne. On a vu tout à l'heure, lors du Conseil des ministres franco-allemands, que l'Allemagne y venait. Elle acceptait un truc qui était impensable il y a encore un an, de créer un ministère. Un ministère de l'économie européen, ce qui voudrait dire avec des impôts européens, on y arrive.
Est-ce qu'on peut dire Emmanuel Macron simplement qu'il y a déjà Brigitte qui l'écoute bien, il n'a pas besoin d'une seconde maman, qu'il laisse tomber maman Merkel là-dessus.
Très bien. Et une nouvelle fois, il faut savoir qu'en même temps, ce qui est marrant, c'est qu'on s'amuse, en effet, la différence d'âge. C'est exactement la même différence d'âge entre Donald Trump et sa femme, d'ailleurs. Je vous le rappelle, André Bercow.
Exactement.
Allez, les infos et France Info, ça doit se terminer.
C'est la différence d'âge entre Trump et sa femme.
Exactement, voilà, c'est ça. Juste un petit coup d'œil à nos partenaires Pascal Richer, la une de l'Obs cette semaine.
Alors, c'est sur bien manger.
L'alimentation, exactement. Voilà, avec Thierry Marx en couverture.
Et puis, Macron est-il de quel libéralisme est Macron?
Et la une du Parisien aujourd'hui en France, Jeannine Calimini.
Bah c'est le 14 juillet, mais le 14 juillet, Nice, un an après.
Merci beaucoup André Bercow. Et Yann Lindin, rapidement, la une de Full Glacial pour l'été.
C'est l'été.
Et bien voilà, tout simplement, un magnifique dessin. Allez, il est temps pour nous de retrouver Matteo Maestrachi, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous.
Pour le classico programme ce soir.
Retour forcément sur la 12e étape du Tour de France, remportée par le Français Romain Bardet. Autre petit événement, Fabio Aru qui chippe le maillot jaune à Froome, ce qui relance plus ou moins cette course. Retour aussi sur la mort en pleine course de l'anglais Tom Simpson en 67. C'était il y a pile 50 ans. Et puis, finale dame, Williams Muguruza, ce sera à Wimbledon samedi.
Le classico, votre débat sport, c'est dans quelques minutes sur France Info.